Théma, le magazine pour faire le tour en une heure de l'actualité.
Théma. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de 48FM en ce jeudi 18 janvier. Nous sommes en direct de la maison de la région à Mende pour parler artisanat dans le cadre de la journée de découverte des métiers et des savoir-faire. Alors à partir de 14h30, la maison de la région vous accueille afin de venir découvrir des métiers avec des démonstrations de gestes techniques et des témoignages de professionnels. Des témoignages de professionnels, nous en retrouverons dans la seconde partie d'émission. Nous nous intéresserons à l'offre de formation existante sur le territoire et à la place de l'artisanat dans la société. Mais tout d'abord, nous allons évoquer le vernissage de l'exposition photographique « Les savoir-faire de Bourg-sur-Cologne » qui a lieu ce soir à 18h ici même. Et pour en parler, nous avons avec nous Aurélie Mayol, conseillère régionale, Michel Castan, maire délégué à Bourg-sur-Cologne et Paul Honora, président du photoclub Lot-Cologne. Bonjour à vous trois, merci d'être avec moi ce midi du jeudi 18 janvier. Bonjour.
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 Alors pour commencer, nous allons évoquer peut-être la genèse de ce projet. Alors au sein de la Maison de la Région, on retrouve des photographies sur le thème des savoir-faire, mais au départ, ces photographies ont été imprimées sur des bâches grand format installées sur certaines façades de Bourg-sur-Cologne. Madame la maire déléguée, c'est ça ? Je ne me suis pas trompée ?
Oui, non, c'est parfait, de Chirac, voilà. Ouais.
De Chirac. Alors, comment s'est fait ce projet au départ ? Qui c'est qui en a eu l'idée ? Comment vous êtes rencontrés pour qu'il aboutisse ?
Alors, je pense que ce projet démarre par le photoclub Lot-Cologne, qui, malgré ses plus de 40 ans, est toujours aussi innovant, puisque chaque fois, ils ont une nouvelle idée et je trouve que c'est quand même très, très intéressant et je les en remercie. Parce que des fois, quand on a plus de 40 ans, on fatigue un peu, alors que là, c'est pas du tout le cas. Même en période de Covid, ils avaient eu l'idée pour que les gens y pensent encore à faire des photos qu'ils avaient mises dans les magasins. C'est pour vous dire que, quelle que soit la situation, ils ont une idée qui va très bien. Donc voilà, donc c'est eux qui ont démarré ce projet et il est bien entendu que nous avons été ravis de soutenir ce projet qui a été aidé donc par les fonds leaders. Je remercie donc la région, je remercie le PETR du Gévaudan, le PNR au Brac, je remercie donc la présidente de la communauté de communes qui nous a soutenus dans ce projet, la directrice de l'office du tourisme de Marvejols et bien entendu le maire et de la commune de Bourg-sur-Cologne. Donc tout le monde était partie prenante dans ce projet. C'est un projet qui, j'espère, développe l'attractivité de notre territoire et je crois que c'est important. C'est d'ailleurs pour ça que l'Office du tourisme et même la présidente de la communauté de communes du Gévaudan a soutenu aussi fermement ce projet. Parce que finalement, je crois aussi qu'on a dans notre territoire à la fois des villages de vacances, on a à la fois des campings, et je crois que amener de la vie, faire connaître notre territoire, me paraît quelque chose de capital. Déjà donc pour l'attractivité, parce qu'on s'aperçoit que les gens, quand ils viennent l'été, et puis parfois, ils s'installent. Et c'est vrai que, malheureusement aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est des logements ou des habitations pour qu'ils puissent venir. Alors voilà déjà ce premier élément. Deuxièmement, on a en plus de l'attractivité, on a envie de faire connaître les métiers. Je crois que ça aussi, ça a été un de nos objectifs, puisque je crois qu'on parle beaucoup des métiers, mais que souvent, on ne les met pas suffisamment en valeur. Et ça permet aussi pour les jeunes, c'est pour ça qu'on pense aussi à notre jeunesse, ça permet pour les jeunes justement de mieux voir les métiers, de mieux voir l'œil, la main, l'entièreté de la personne. Et ça, ça me paraît également très capital. Alors après, ben je crois que ça nous permet aussi que les gens puissent voir le patrimoine de nos localités, que ce soit Chirac, que ce soit le Monastier. Je dirais même de voir l'interbourg, l'entre-deux-bourgs. D'ailleurs, nous en avons même une qui est mise au niveau des casiers automatisés, justement. Ce qui montre, il y en a même deux, oui, une de chaque côté. Mais donc, c'est quand même important qu'il y ait ceci. Ajouté à ceci, je pense qu'on va développer encore cette recherche du patrimoine, puisqu'on a déjà Baludic qui existe. Vous savez que Baludic existe au monastier, ce qui nous permet de voir la vie d'Urbain V, et nous allons faire celui de Chirac. Donc vous voyez que l'association, le photoclub, plus la mairie, plus les associations qui s'occupent du patrimoine, tout est bien lié, et je crois qu'ensemble on fait beaucoup de choses. Seul, c'est pas évident. Alors moi, j'ai envie de remercier surtout le photoclub, les artisans qui ont accepté, et en plus ceux qui sont ici aujourd'hui, les artisans qui ont accepté justement de se faire photographier et qu'on voit bien leurs gestes pour la jeunesse, et puis aussi les propriétaires, parce que les propriétaires ont quand même accepté que l'on mette ces bâches sur leur maison. Le personnel aussi, donc municipal, hein, le personnel d'entretien, car eux aussi ont fait un très gros travail, et je crois, je remercie autant les uns que les autres, je pense que ça s'est fait dans un lien social extraordinaire. Donc voilà, un petit peu, si vous avez d'autres questions, je veux bien répondre.
Il y en aura d'autres.
Avec plaisir. Voilà.
Monsieur Nora, quand est-ce que vous avez eu l'idée de travailler spécifiquement sur les artisans? Ça a été une réflexion qui a duré un peu, ou c'est venu de suite?
S'il y a quelque chose d'important dans ce projet, c'est que c'est un projet collectif. Au sein du club, il y a des anciens, il y a des gens qui sont très nouveaux, il y a des photographes chevronnés, je dirais, et puis il y a des photographes débutants. Voilà, on a absolument tous les niveaux. Et le projet qui a été initié par Philippe, qui se cache derrière, voilà, c'est une proposition qui a été faite au sein du club. On en a débattu et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut bien mettre en valeur. Et puis ce sujet de l'artisanat au sens large, pas que professionnel, puisqu'on a quelques associations aussi qui sont mises en valeur dans ce projet. Et donc on a délibéré et on est parti sur cette idée de faire connaître les professions et les savoir-faire. Voilà. On a beaucoup cherché le bon terme, et je crois que les savoir-faire, c'est ce qui a bien accroché. Partant de là, il fallait qu'il y ait suffisamment d'amateurs pour se lancer dans un projet qui était loin d'être évident, parce qu'on est tous, les photographes, un petit peu enfermés dans notre zone de confort. Et celui qui aime l'animalier, il préférera faire de l'animalier. Donc on s'est un petit peu forcé à faire autre chose. Voilà.
Oui, parce que c'est un travail, une photographie spécifique, le portrait.
Oui. Puis rentrer dans l'intimité d'un atelier, d'un professionnel, c'était quelque chose qui n'était pas évident. On a formé... Les équipes se sont formées à deux, trois, les uns pour la lumière, les autres pour la photo. Enfin bon, on a travaillé aussi longuement là-dessus et on est parti à la conquête de quelque chose qu'on connaissait très mal. Et l'accueil a été chaleureux partout. Donc c'était un grand plaisir pour nous tous.
Du coup, c'est 42 portraits. 19 photographes, c'est ça les chiffres de cette grande exposition du Photoclub ?
C'est ça. Et quand vous parliez, Madame la Maire, de l'Interbourg, c'est qu'à l'époque, Henri Boyer, qui a été le premier contact à l'époque, nous a dit, avec la directrice des services, nous ont dit, est-ce que vous pourriez en rajouter ? Alors nous, on était là, arrivés avec un projet relativement lourd. J'enlève le relativement d'ailleurs, et ils nous en demandent d'autres. Alors on a dit, c'est intéressant, et donc il y a des photos effectivement au casier, dans les deux liaisons qui sont en train de créer du lien entre les deux villages. Voilà, c'est une bonne chose aussi.
Elles sont actuellement visibles là sur les maisons, hein, les bâches. Hein. C'est jusqu'à voilà. Quand on peut visiter cette exposition
Pendant 5 ans.
5 ans
minimum, minimum 5 ans, puisque c'était une des conditions du leader. Mais je les remercie quand même, parce que régulièrement, ils acceptent Enfin, de temps en temps, ils acceptent de faire des visites. Parce que c'est vrai qu'il y a les flashcodes et que c'est bien pour quelqu'un qui les utilise. Mais tout le monde n'utilise pas les flashcodes. Et donc, avoir quelqu'un qui vous parle et qui vous explique le travail qu'il a fait, ça vaut de l'or aussi. Donc ça, ils le font, ils l'ont fait plusieurs fois. Donc c'est quand même encore un autre remerciement que l'on peut faire à cette association. Voilà.
J'irai même plus loin. On a été contacté une première fois par c'est le CFPPA, hein, je crois, de Marvejols, qui nous a demandé s'il pouvait amener des gens qui sont en difficulté professionnelle ou à la recherche d'un emploi de venir pour parcourir un petit peu l'exposition et peut-être s'inspirer de quelque chose. Donc ça marche plutôt bien. Nous, on avait visé plutôt les scolaires et les centres de formation. Avec Madame Noué, ça fait longtemps qu'on en parle et qu'on se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire puisque la région a la compétence de la formation, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, être contacté maintenant par des organismes de formation, c'est encourageant.
Voilà, et ces photos que vous pouvez retrouver ici à la maison de la région, les flashcodes sont justement accrochés à chaque portrait pour en savoir plus sur, voilà. sur l'artisan. Et aussi sur le photographe ou pas? Ou c'est juste ces flashcodes donnent juste de l'information sur l'artisan?
Non, c'est un travail collectif, donc les photographes de façon individuelle, on s'efface devant
vous effacez.
Voilà, l'intérêt du club. Je peux peut-être préciser un petit peu, les flashcodes, ils sont... l'expo qui est ici à la maison de ma région, c'est une expo qui relate, c'est un extrait de ce qui n'est pas en place sur Chirac.
Ah, c'est différent de ce qu'on peut voir à Chirac, d'accord.
Vous imaginez bien que quand on va faire une séance chez un artisan, on ne va pas faire une photo. C'est rarement la bonne. Donc, y a
ça, c'est parce que vous n'avez pas su choisir. Vous avez dit, oh, il y a tellement de belles photos, on va en garder pour les bâches, on va en garder d'autres pour des expositions itinérantes.
Voilà, on a travaillé sur la photo qui allait être imprimée. Je ne vous dis pas la longueur de certains débats.
J'imagine.
C'est voilà, un travail tout aussi intéressant. Et après, on s'est dit, bon, pour mettre ça en valeur, on a été chercher la photo numéro 2 ou 3 pour, en se disant, justement, avec cette optique de faire cette expo ici... Il y a 5 ans hein, qu'on en a parlé. Donc on l'a présenté à Photobrac, c'était une occasion aussi de parler de Bourg-sur-Collagne en photo. Et puis voilà, ça s'est décanté pour ici, et voilà, ça peut tourner encore ailleurs. Mais ce sont, voilà, ici, ce sont des photos qui... Alors, si, il y a quand même, on en a pris quelques-unes qui montrent où... Et comment sont implantées les photos, comme celle qui est derrière ici. Donc le professionnel qui est là, sa photo est ici, mais la vraie, elle est de ce côté-ci, avec son implantation sur la façade, pour qu'on comprenne bien. Au bas de chaque photo, il y a un flashcode qui permet de rentrer sur le site de la commune et de venir sur notre site, il y a un lien entre les deux, dans les deux sens, et on peut comme ça avoir plus de détails sur la profession, sur des fois un petit peu les conditions de prise de vue. Juste, si je peux raconter juste une anecdote, le forgeron dont on a porté une grande bâche, la photo, elle est faite, le photographe était à l'extérieur, et avec un collègue, nous étions de l'autre côté de la fenêtre à tenir les éclairages, les flashs. Donc c'était épique, quoi. Mais voilà, quand on passe devant, on peut raconter ce genre de petite aventure. C'est pas un long fleuve, tranquille.
Quelle taille elles font, les photographies?
Les plus grandes, 4 par 3.
D'accord.
Et puis les plus petites, c'est 2 par 133, je crois.
D'accord. 2 heures de parcours sur 5 km, hein. C'est ça?
Oui, après...
Chacun son rythme.
Chacun son rythme.
Quel métier on retrouve sur ces photographies à peu près? Une liste non exhaustive, hein, juste pour avoir une idée.
Le thème, c'était les savoir-faire locaux. Donc on est resté sur les environs. Il faut bien reconnaître que moi qui ne suis pas de Chirac ni du Monastier, dans ma commune, il n'y a pas autant d'artisans. Donc c'est quelque chose qui nous est apparu comme un gros atout de la commune. En plus, avec la fusion, bon, ça fait quelque chose de beaucoup plus important. Donc oui, l'artisanat, c'était quelque chose qui... Ça, on a très vite accroché là-dessus, tous.
Et donc on retrouve, par exemple, vous parlez de forgerons, il y a quoi? Il y a tailleurs de pierre, il y a...
Forgerons, découvreurs, schiste et lose calcaire, il y a un aluminier, il y a le couvige, les dames qui font du... comment on appelle ça?
Du crochet.
Oui, du crochet. On a les employés communaux dont on parlait tout à l'heure, qui sont... qui ont travaillé aussi sur la pose, mais aussi la partie administrative. Voilà, on a fait un pastiche un petit peu de tous ces savoir-faire-là, parce que ce sont des gens qui ont de la compétence, donc il faut le mettre en valeur. On a nos amis pompiers, on a couvert un petit peu.
D'accord, ça c'est large.
Les coiffeurs, les boulangers,
électriciens.
Tous les métiers, les plombiers, voilà.
Et seulement des communes de Bourg-sur-Cologne?
Oui, et notre horloger bijoutier aussi, oui. Qui est vraiment reconnu meilleur ouvrier de France, donc qui travaille justement à la pièce unique, etc. Eh bien, il fait partie de l'exposition. Donc, c'est une très très belle bâche aussi. Voilà.
Que j'étais venu couvrir quand il s'était installé. D'ailleurs, il y avait Madame Delga qui était venue, si mes souvenirs sont bons.
Rappelle.
C'est ça. Ouais. Ça me fait la transition avec Aurélie, pour parler de la région un peu, qui accueille cette exposition et cette journée spéciale savoir-faire.
Ouais.
Savoir la région, quelle est la politique de la région dans son soutien au savoir-faire et à l'artisanat.
Alors d'abord, je voudrais juste dire un mot sur l'exposition qu'on accueille, parce qu'effectivement, chez nous, elle résonne, elle est tout à fait en résonance justement à les politiques de soutien à l'artisanat qu'on met en œuvre. Et je voudrais féliciter le photoclub, mais aussi la commune de Bourg-sur-Cologne, parce que c'est deux institutions. On va dire que le photoclub est une institution qu'on connaît, hein, qu'on a déjà reçue ici. Et effectivement, c'est des institutions qui sont très dynamiques, innovantes, et qu'on a plaisir à recevoir chez nous. Et comme je le disais, ça fait tout à fait résonance aux politiques. Ça, c'est du coup un petit peu moins sexy que ce que je viens de dire avant. Mais les politiques de la région en faveur de l'artisanat. Donc déjà, l'économie, rappeler peut-être quelques bases, mais le développement économique, c'est une des compétences majeures de la région, donc avec les mobilités également. Donc les politiques en faveur du développement économique à la région ont été pensées pour toutes les sortes d'économies qu'on connaît sur la région Occitanie. Alors il y a des choses qui parlent moins ici en Lozère, comme par exemple les aides au littoral ou les aides à l'aviation, l'économie autour d'Airbus. C'est vrai qu'ici on en profite moins. Mais il y a tout un pan qui correspond tout à fait au tissu économique du département de la Lozère. Et dans cette partie-là, il y a effectivement des aides à l'artisanat qui sont assez conséquentes sur notre territoire. Alors comment on accompagne l'artisanat et les savoir-faire? Il y a à peu près trois grands types d'interventions. Il y a d'abord les aides directes aux entreprises. Et ça, je pense que c'est très important. On a notamment des dispositifs de soutien à la transmission et à la reprise d'entreprise. Parce que vous venez de le faire émerger, mais on a beaucoup encore d'artisanat dans nos petites communes, donc particulièrement à Bourg-sur-Cologne, mais il y en a dans toutes les communes en Lozère. Et on a très rapidement fait le constat en 2016 que on avait un petit problème sur la transmission et la reprise de ces entreprises qui étaient le cœur économique de nos petits villages. Et donc on a mis en place non seulement un accompagnement au travers du dispositif Octave, donc qui accompagne à la fois le cédant, donc toutes les personnes qui passent prendre leur retraite, les artisans dans 5 ans, allez vers Octave. Vous avez un guichet unique CMA, CCI, Chambre d'agriculture en Lozère. Donc Octave en Lozère. Et ils pourront vous accompagner dans la cession de votre entreprise pendant 5 ans. Donc c'est quand même, vous avez le temps de réfléchir à la valeur de notre entreprise, les conditions de transmission, etc.
C'est depuis quand ce guichet unique?
Le début de la réflexion, c'est 2016. Après, 2016. L'effectivité, c'est que ça existe depuis un moment. 2018, par exemple.
2018, hein,
quelque
d'accord.
Chose comme ça. Okay. Et il me semble, pour rencontrer beaucoup de chefs d'entreprise, et notamment d'artisans à Lozère, que ça peut correspondre à un besoin qui va se présenter à eux de toute façon au moment de la cession de l'entreprise. Et aussi, Octave accueille les personnes qui seraient intéressées pour reprendre une activité économique, artisanale, touristique. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un dispositif qui est essentiel, je pense, dans le soutien à l'artisanat. Et un dispositif un peu plus spécifique, mais j'en parle parce qu'il est nouveau, c'est le pass métier d'art. Donc le pass métier d'art, c'est pour les artisans d'art, mais c'est quand même 4000 entreprises sur la région, et un nombre important d'entreprises en Lozère, et donc ça vient soutenir ces entreprises à l'investissement. Donc ça permet soit à la création de l'entreprise, soit au moment où on a besoin de s'équiper un peu mieux, de soutenir le modèle économique de l'artisanat d'art, qui là également, on a des potiers, on a des bijoutiers, on a des céramistes, on a plein d'artisans d'art dans nos villages, et donc ça peut être crucial pour la création, le développement de ces entreprises. Après, l'autre façon de soutenir les entreprises, les artisans, c'est de soutenir le réseau des chambres des métiers sur le territoire, soit au travers de la chambre du réseau régional, des CMA, soit au niveau de l'aide, vous en parliez tout à l'heure, Monsieur le Président, de l'aide aux formations que proposent les CFA et aux demandeurs d'emploi. On les accompagne aussi quand ils ont des projets, soit de construction, de réhabilitation, d'extension, d'équipement numérique de ces CFA. On peut aussi intervenir sur le financement de ces gros travaux, de ces gros investissements. Et puis, il y a tout ce qui est l'aide à la promotion des métiers d'art. Donc, on accompagne les chambres des métiers sur leur salon en faveur de l'artisanat. Et puis après, y a un peu ce que fait cette expo, finalement, c'est la promotion des savoir-faire, de donner à voir, de mettre en avant des métiers, peut-être certains oubliés, méconnus, et surtout des savoir-faire sur les territoires. Et donc, on le met en avant au travers de salons, sur des salons régionaux, mais aussi on emmène avec nous, des fois, des artisans sur des salons nationaux. Je pense notamment au salon Révélation, sur lequel l'Agence de développement économique accueille des artisans pour qu'ils puissent présenter leur création. Le bijoutier, imaginons que le bijoutier dont on parle, l'horloger, pardon, dont on parlait tout à l'heure, typiquement peut participer à un salon international, pour le coup, qui a une renommée mondiale, parce qu'il a un marché quand même de niche, mais un savoir-faire qui correspond à ce marché de Nice. Et enfin, il y a l'identification, parce qu'on ne peut pas tous les emmener sur des salons, puis ils n'ont pas tous le temps d'y aller, l'identification de ces artisans qui sont sur nos territoires au travers de la marque, qui est une nouvelle marque. Tout le monde connaît la marque Sud de France, mais il y en a une autre qui est fabriquée en Occitanie, qui est déployée par la région, au travers d'une direction dédiée, peu importe, ça c'est technique, et des CMA, qui sont le premier point d'information des artisans. Et donc vous pouvez être labellisé fabriqué en Occitanie, ça vous donne une visibilité à l'échelle de votre département, mais aussi à l'échelle de la région. Voilà, trois façons d'intervenir.
Sur quel produit c'est cette signature c'est assez vaste, j'imagine.
Oui, c'est ça, c'est l'artisanat d'art, donc c'est des savoir-faire particuliers qui sont reconnus. On peut être dans le, je sais pas, j'essaye de prendre des exemples lozériens, mais on peut être dans le domaine du textile, de la bijouterie, artisan lozier. Voilà.
D'accord, ça c'est vaste.
C'est assez large,
oui. Oui. On parlait de travaux, bien sûr, il faut parler d'apprentissage, on en parlait dans cette seconde partie d'émission. La région, l'apprentissage, c'est une voie de formation qui favorise l'égalité des chances et l'insertion durable pour les jeunes, c'est comme ça que vous le mettez en avant. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet dessus. Il y a deux axes principaux pour aider à l'apprentissage, des soutiens aux travaux de construction, de réhabilitation, de mise aux normes, c'est ça, ce qu'on disait. Également, soutien à l'équipement numérique innovant et facilitant la formation ouverte et à distance. En Lozère, ça s'est traduit comment, ces deux axes?
Alors là, je n'en ai strictement aucune idée. Je regarde le représentant de la Chambre des métiers. Je ne sais pas si vous en avez bénéficié, mais oui, non, je ne sais pas. Non, je crois pas. Mais typiquement, ça peut être des équipements. Alors, c'est un exemple qui ne va pas être celui de la CMA, puisque vous n'avez pas de projet qu'on aurait pu accompagner. Mais typiquement, le campus connecté, Mandflorac, donc tout le monde a à peu près entendu parler, l'aide de la région peut intervenir sur des postes de travail, des besoins en tableau numérique, ce genre de choses. Voilà. Concrètement, c'est ça, l'équipement numérique. C'est de dire l'apprentissage peut se faire en présentiel, mais avec des outils numériques. Donc ça rentre dans l'enveloppe. Ou à distanciel, forcément avec des outils numériques. Et là aussi, on peut aider le CFA dans son équipement parce que l'air de, et dans sa sécurisation. Et dans ces suites logicielles qu'il va devoir acquérir, parce que l'air de rien, quand on dit ça, on se dit c'est un ordinateur, mais non, il y a plein de choses derrière.
Très bien. Au photoclub Lot-Colagne, vous êtes combien d'adhérents, du coup?
41 au jour d'aujourd'hui.
41. D'accord, donc il y a quelqu'un qui a fait deux portraits, vu qu'il y a 42 portraits.
Non, il y en a qui en ont fait plus que d'autres.
C'est la galette des rois. T'as gagné, tu vois.
Comme on aime, on compte pas. Non, c'est pas nominatif, c'est un travail d'équipe. Et j'y tiens parce que ça a été la réalité de la chose. Par contre, aussi, on a fait en sorte que les gens qui se sont engagés et qui étaient des débutants, on les a accompagnés pour, d'une façon ou d'une autre. Il y avait toujours quelqu'un d'un peu plus chevronné pour aider. Donc, il y a aussi des débutants.
Vous aussi, vous faites de la formation.
On a fait de la formation, oui. Non, on ne fait que ça. Hein. Ouais. Mais c'est plus du partage que véritablement de la formation. Mais on vient de mettre en route des cycles de formation, donc auprès des adhérentes et des adhérents, de sorte que... Voilà, parce que c'est pas simple, la photo. Avec un téléphone, clic-clic, on fait un peu tout et n'importe quoi. Alors que, bon, il faut maîtriser aussi l'informatique. On en parlait avec Gilles tout à l'heure. Il y a des formations de base. On a des gens qui ne connaissent ni la photo, ni l'informatique. Et aujourd'hui, avant, il fallait connaître la chimie, au minimum. Bon, maintenant, il faut connaître l'informatique. Donc,
c'est pas de la triche, les retouches de photos sur informatique?
Grand débat, ça. Ouais. Grand débat interminable.
Tu pourrais y consacrer une émission.
C'est ça.
Surtout avec l'arrivée des outils. On a un autre projet qui est en cours de... En fin de réalisation, c'est la sauvegarde du patrimoine de la chapelle de l'ancien collège de Chirac, les peintures de Nicolas Grechny. L'association gestionnaire nous a demandé d'en faire une expo. On a fait les photos. Et quand on essaye de mettre ça, il y a tellement de volutes ici, à droite, à gauche. On a même découvert une fissure hier sur la dernière. Avec l'intelligence artificielle, ça disparaît.
C'est ça maintenant, oui. On peut même créer des photos, on n'a même plus à les prendre.
Ah, complètement.
C'est autre débat encore, l'intelligence artificielle. votre rapport avec la photographie, Michel Castan, Aurélie Mayol?
Alors personnellement, je suis vraiment le profane parfait, mais bon, j'apprécie beaucoup quand je les vois. Mais je n'ai pas de temps, franchement, et pour l'instant. Je ne me suis pas du tout intéressée à la photographie, sinon à apprécier ce qui existe et ce qui est bien fait. Et je crois que de ce côté-là, on a de la chance de les avoir, parce que tout à l'heure, vous lui posez la question, vous êtes 41 et 42, mais attendez, il y en a qui font les animaux, qui font plein de choses. Donc il y a toujours de la richesse derrière. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je voudrais ajouter quand même quelque chose, c'est que non seulement cette exposition, elle est accessible, quelle que soit la personne. Donc nous avons chez nous pas mal de centres pour handicapés et l'exposition est totalement accessible. On peut y aller même entre Chirac et Monastier à vélo, donc il n'y a pas de problème. Donc franchement, nous correspondons un peu à ce qui peut être souhaité aujourd'hui par rapport à la biodiversité et à la planète. Voilà.
Vous savez, dans la vie, vous avez toujours quand vous êtes jeune, vous êtes adolescent, et vous avez toujours des choses où vous vous dites ça, je vais le faire. Moi, c'est un peu mon rapport à la photo. Il y a deux choses dans la vie que je vais faire. Et donc, parmi ces deux choses, il y a pratiquer la photo, pas juste regarder des photos. Voilà, donc j'attends d'avoir le temps, peut-être,
Il faut commencer par une formation, et comme c'est une fois qu'on est lancé.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on ne peut pas aborder la chose sans... Enfin, pour ma part, je ne peux pas aborder la chose sans formation.
Après, ça se cultive dès le plus jeune âge, pendant plusieurs années à Bourg-sur-Colagne. Nous avons participé Les temps d'activité périscolaires. On a accueilli des classes de gamins de une douzaine d'années. Et au départ, on leur avait demandé qu'ils viennent avec un outil de photographie. Alors là, on s'est vite arraché les cheveux parce que on a même eu un appareil photo de Fisher-Price. Je fais pas de pub, mais non, mais c'était infernal. Et puis ils sont arrivés certains avec des appareils photo, les cartes pleines, qu'est-ce que vous faites de vos photos ? Alors, on a pendant 4 ou 5 ans, on a suivi le projet. Et puis, quand ça s'est arrêté, on a revu des jeunes scolarisés de l'époque, du primaire, venir aux expos et puis nous réaborder. On a deux candidats actuellement. Alors, c'est compliqué pour eux parce qu'à 15-16 ans, ils sont au lycée, ils ne sont pas sur place. Mais on a mis en place de quoi les accueillir s'ils veulent. Et d'ailleurs, ils commencent à en mettre quelques photos sur notre site internet. Enfin bon, ils participent. Donc ce sont des jeunes qu'on a eus à l'époque et qui faisaient comme la plupart. Il y a beaucoup d'adultes aussi, hein, on les voit avec clic, 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 clic. On prend tout et n'importe quoi, on ne réfléchit pas. Et puis, en fait, on s'en fout, on n'en fait rien de ces photos. C'est ça.
C'est ça, exactement, oui. Très bien, merci à vous trois. On va clôturer cette première partie d'émission. Si vous voulez dire un dernier mot, ou sinon on passe à la pause musicale.
Moi simplement un grand merci à tous, parce que je crois que sans partenaires pour nous aider financièrement, que ce soit la région, etc., la région, donc le PETR, le PNR, les leaders à l'Europe, hein, évidemment, mais par le cadre de la région. Donc je remercie tout le monde, je remercie l'association pour tout le travail, pour toute l'innovation, parce que ça, je crois que, hein, comme je le disais en début, je peux me permettre de le reprendre. Et puis, donc, merci à tous les artisans, aux propriétaires qui nous ont aidés dans cette démarche.
Juste un dernier mot, ce serait pour rendre hommage à un ancien président du Photoclub qui vient de nous quitter, Joseph Hermé. Et voilà, on est un peu sous le coup de l'émotion, mais on lui rend hommage.
Merci. Allez, une pause musicale, on revient après pour la seconde partie de ce plateau radio. How did you see me? How did you love me? How do you remember me? I'm a rotic nightingale. I hope the darkness keeps you well. When I can't fall asleep at night, I blindly talk myself to fight. Oh, shadow man, shadow box, please keep your hands up. And if you get knocked down, don't forget to stand up. Bless the night, darkness keep you well. Bless the night and yeah, darkness keep you well.
Shadow man, shadow box, dance in the dark with me. This resurrected agony, this apathy for caskets. Everything I ever loved, I lost in the magic. I claimed by the river, my body delivered. When I die, it's 27 rappers in my funeral. Moses wrote my name in gold and Kanye did the eulogy. Remember all the bashfulness, understand the truancy. Yeah, I stand in front of a college dropout. But her music was a church when your spirit hopped out. Met a gypsy in the lane, she reading my palm tree. Mysterious situation like kissing the concrete. I eat getting money, I be close to heaven. Baby, claim he love me, hold me down forever. I never should have bought this halo. He waiting for me at his table. My funeral with Disney fable, cause the king about to take me home.
Preach church, tabernacle, Tallahassee sunshine. Southern is my bloodline, we know it'll come time to go. And though I leave like alumni, I'm lying like a lullaby and quiet like my tongue tight alone. Bury me in satin, tell the pastor, say this ashes, ain't class with me, ooh, first row. And if ashes turn to ashes, then I'm back in my first form with a dust storm, with a corn and coat. Morbid or late, Lord give, Lord take. Viva la morte, mortal man. Less love, more hate, more like mortician. We meet our fate, funeral home looking like a home that I used to live in. You wasn't supposed to go so soon, I took it for granted. Maybe we'll meet the next life, maybe another planet. Open my soul, but then it'll end with an open casket.
Tippy toe on a tightrope. Leaning on green, every go be a dice roll. I'm fiending a feline, who mine said a fiendy. I got two packs fools. Gold on my gun line, they got rich out. My tongue sticky, throwing a tightrope. Cleaning my grievances, as a little heathen. I set like a legion shot, never believing y'all. System, I needed more. And I done went Figaro with the finger roll, lander on, split my head and start leaking songs in the words. Yeah, them words, they make a nigga live forever. Black with them birds, my heart stay lighter than the feather. It's gonna be niggas booming at my funeral. Tell them play Metro booming at my funeral. St. Louis taught me death could be your neighbor. Stay awake, don't take the family for granted. Better days away.
Bless the night again. Darkness keep you well. Bless the night again. Darkness keep you well. Bless the night again. Darkness keep you well.
Allez, on est de retour pour cette seconde partie d'émission, toujours en direct de la maison de la région. Avec nous, Arnaud Prunet, le directeur adjoint au campus des métiers de l'artisanat de la Lozère. Nous et Laurenceau, secrétaire général à la Fédération française des bâtiments. Et deux artisans, Patrice Peytavin, électricien, et Laurent Pujot, coiffeur, qui sont avec nous. Merci d'être là tous les quatre. Arnaud Prunet, on va commencer avec vous pour évoquer peut-être le campus des métiers de l'artisanat de Mende. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce campus, à savoir combien il regroupe de jeunes apprentis et sur quel type de métier ?
Oui, bonjour à tous. Le campus des métiers de l'artisanat de la Lozère, c'est un campus qui est interprofessionnel, c'est-à-dire que la volonté de notre présidente et des élus de la Chambre de métiers, c'est vraiment de pouvoir proposer à tous les jeunes du département le plus de métiers possible pour qu'ils évitent en fait d'être obligés soit de partir, soit de changer de métier, parce qu'on en rencontre parfois, hein, s'ils ne rencontrent pas sur le territoire le métier envisagé, ils vont par défaut prendre la solution numéro 2 pour repartir sur un autre métier. Donc là, c'est vraiment le souhait de pouvoir proposer le maximum de métiers. Donc on regroupe tous les métiers ou la plupart des métiers du bâtiment, les métiers de l'hôtellerie-restauration, les métiers d'alimentation, les métiers des services avec la coiffure cette année, un nouveau CAP avec l'esthétique, la vente. Donc vous voyez, c'est très très varié. On a 42 métiers différents qui sont proposés au niveau du CFA. Et c'est environ 350 apprenants par an. Quand je dis apprenants, ce sont des apprentis, bien évidemment, donc des jeunes qui sortent du cursus scolaire de façon traditionnelle, en formation initiale, mais aussi de plus en plus des formations adultes en reconversion professionnelle, donc des apprenants qui sont aussi au CFA. Ça représente environ 30% de nos effectifs chaque année.
Voilà, vous répondez à mes questions avant que je les pose, j'allais vous demander, c'est très bien, jeunes ou reconversion. Généralement, les jeunes ou les personnes en reconversion qui sortent de votre campus, ils vont où après un CAP ? Ils vont direct dans le monde du travail ou on part sur autre chose ?
Alors pour un certain nombre de métiers, on propose aussi des niveaux supérieurs au CAP, propose des BP, des brevets professionnels, ou pour ceux qui n'ont pas peut-être la capacité de partir sur des BP parce que la marche est quand même grande au niveau de l'enseignement, on a des mentions complémentaires aussi. Voilà. Et puis effectivement, ça ne s'arrête pas là, hein. Ils peuvent partir aussi et partir sur des niveaux Bac plus 4 ou Bac plus 5, mais là, pour le CFA demande, on ne propose que des niveaux Bac avec les BP. Voilà. Mmh. Donc soit ils s'arrêtent au niveau du CAP, soit ils peuvent continuer et se perfectionner dans le métier à travers différents diplômes, soit chez nous, soit ailleurs.
D'accord. On est sur quel taux de réussite à peu près au campus?
On est sur 82% de D'accord. mémoire comme ça pour l'année dernière, pour les récipiendaires de l'année dernière. On a justement hier mis en avant toutes les personnes qui avaient réussi, donc c'est 137 apprenants qui ont eu leur diplôme. Et donc on avait la remise des diplômes hier au CFA pour les personnes qui ont réussi en 2023 sur la session de juillet.
Monsieur Purgeon, monsieur Païtavin, vous êtes sorti du campus de Mende ou pas du tout?
Oui. Oui, tout à fait.
Je vous invite à vous rapprocher du micro.
Oui, j'ai été. C'était en 2005 que j'ai été à Mende. Ouais. Ça remonte déjà un peu. Ouais.
D'accord.
Non, moi, pas du tout.
Pas du tout.
J'ai dévié un peu. J'étais parti pour la comptabilité. Je me suis retrouvé dans le bâtiment.
Ok, très bien. Pourquoi pas, ma foi. Du coup, vous prenez des apprentis. Vous, à votre tour, comment ça se passe?
Alors pour ma part, oui, j'ai un apprenti avec moi depuis 2 ans. Alors c'est rigolo parce que justement quand j'entendais un petit peu, moi à l'époque justement en 2005, on suivait des cursus classiques. Après le collège, on partait en apprentissage et donc on était tous les mêmes statuts, les mêmes personnes. Et là au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les apprentis, on a du mal à en trouver et qu'il ne faut plus forcément se tourner vers des jeunes sortis d'école ou sortis de troisième. Il y a plein de profils différents, donc de la reconversion. Moi, le jeune apprenti que j'ai actuellement est un jeune porteur d'handicap qui est donc dans une structure. Son projet, du coup, a été accompagné. Et donc là, on part sur un apprentissage de 3 ans au lieu de 2. Et on s'aperçoit que au lieu d'aller chercher sur les sorties d'école, on a des gens qui sont motivés, qui sortent des cases, qui sortent des étiquettes et qui vont devenir de très bons professionnels par la suite.
Alors j'avais demandé si c'était compliqué de trouver des entreprises en Lozère pour les apprentis, mais c'est du coup on va inverser la question. C'est compliqué de trouver des apprentis ?
Alors c'est le lien est fait avec ce qui se passe aujourd'hui à la Maison de la Région. En fait, l'idée c'est de montrer toute l'étendue des possibilités dans les métiers de l'artisanat, et donc à travers l'exposition photo d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on recherche, parce qu'effectivement il faut aller à la recherche de nouveaux candidats, puisque comme on le disait aussi sur la première partie de plateau, on a un nombre d'entreprises assez conséquent en Lozère qui vont passer la main dans quelques années, donc pour faire en sorte que ces savoir-faire perdurent et puissent se continuer dans le temps, on a besoin aussi de pouvoir renouveler des salariés qui seront les futurs entrepreneurs de demain. Donc on a une personne chez nous au sein du CFA qui s'appelle la développeuse de l'apprentissage, qui a été l'inauguratrice de la soirée d'hier pour la remise des diplômes, qui est en fait en charge de pouvoir rencontrer les collégiens, les lycéens, à travers des opérations du type salon artisan nature, donc un salon qui a été mis en place à l'automne dernier, ou qui va directement dans les collèges et les lycées pour leur parler d'apprentissage, pour leur parler de qu'est-ce qu'il est possible de faire dans cette voie-là. Donc voilà, on essaye tous les jours, nous, de pouvoir aller à la rencontre de jeunes ou de personnes qui sont en reconversion professionnelle. Vous le disiez à travers votre exemple, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui, après une première vie professionnelle, ont d'autres aspirations, parce que quand ils étaient jeunes, ils avaient une envie particulière sur un métier qu'ils n'ont pas pu faire par la suite et qui reviennent à leurs premiers amours. Donc ça, on en a de plus en plus. Et effectivement, on a des programmes, type le programme régional de formation, qui est financé par la région Occitanie, qui permet à des adultes de pouvoir, de façon un petit peu rapide, on va dire, accéder à des métiers, puisque ce sont des formations qui sont là sur 10 mois, contrairement à des formations avec des apprentis classiques, des jeunes qui sortent de 3e, où on est plutôt sur des parcours de 2 ans. Donc on essaie de s'adapter à tous les publics, et effectivement il y a de la place pour tout le monde dans ces métiers-là. Donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux. Vous parliez aussi de problèmes de handicap, donc effectivement on a aussi nous des personnes qui sont au CFA, on a le CFAS qui est dans nos locaux, donc le CFA spécialisé, qui accompagne des jeunes en situation de handicap et qui ont des parcours plutôt sur des parcours de 3 ans. Donc voilà, on a vraiment des profils différents et des accompagnements différents. Je terminerai simplement aussi par la notion de migrants. On a de plus en plus de personnes qui arrivent d'autres pays avec la difficulté de la langue. Et là aussi, on propose depuis 2 ans déjà un CAP en 3 ans qui permet, la première année, de faire un effort particulier sur l'apprentissage de la langue pour pouvoir ensuite rebondir sur un apprentissage classique en 2 ans. Voilà.
C'est vrai, quand on parle au niveau national, ça arrivait dernièrement avec la loi immigration, on parle des métiers en tension, d'accepter ces personnes. On parle plus, on parle beaucoup d'immigration pour combler les manques dans ces métiers d'artisanat, du bâtiment, et pas forcément de jeunes. J'ai l'impression que c'est ça évolue.
Nous, on a vraiment, on doit avoir une trentaine de jeunes migrants qui sont au CFA de bande, donc qui sont dans tous les métiers. On n'a pas un métier en particulier par rapport à ces populations-là et qui réussissent très très bien. Il y a des parcours vraiment assez exceptionnels là-dessus, avec des parcours de vie qui sont parfois difficiles, des écorchés vifs, mais qui arrivent après à s'insérer durablement dans les entreprises.
Bien sûr. Noé, ces apprentis, ces jeunes en reconversion, on les retrouve dans le bâtiment, dans l'artisanat du bâtiment. Il y a beaucoup de métiers finalement, parce que quand on pense au bâtiment, on ne pense pas forcément à toute cette diversité qu'on peut retrouver.
Non, c'est sûr que l'image du bâtiment, parfois, elle est un peu écornée, mais quelque part, bon, on a 26 métiers, ou on va dire série de métiers principaux. Par exemple, si je prends la maçonnerie, il va y avoir aussi donc, l'électricité, il va y avoir donc, la menuiserie, on va avoir beaucoup de choses, la plomberie, chauffage, etc. Mais si je prends juste la maçonnerie, par exemple, effectivement, on va commencer par exemple, les bâtisseurs en pierre sèche, bon, qui sont des maçons. On a la limousinerie, hein, donc ça va ceux qui vont monter de pierre avec un liant. On va avoir des coffreurs bancheurs, mais dans les coffreurs bancheurs, bon, on va aussi avoir ceux qui vont monter. Donc il y a différentes technicités, il y a différents métiers, il y a toute une palette. Voilà. C'est pareil chez les chauffagistes, par exemple, il y en a certains qui, selon l'énergie, qu'ils vont choisir ou privilégier. Il y en a qui vont s'orienter vers, ou les électriciens, vers la PAC, hein, la pompe à chaleur. Il y en a d'autres qui vont aller sur le granulé, sur l'énergie bois. Il y en a d'autres qui vont travailler beaucoup plus sur des réseaux type gaz ou autre, etc. Il y a beaucoup de choses. C'est une richesse énorme. Et je pense que l'étendue des métiers, elle est vraiment sous-estimée. Et ça, c'est important. D'autant plus que, encore une fois, on va travailler sur différents secteurs. On va travailler sur le secteur, par exemple, tout ce qui est rénovation. La rénovation, elle est la rénovation un peu classique, on va dire. La rénovation thermique aussi, donc c'est de rendre la performance des bâtiments meilleure pour avoir une meilleure isolation, mais aussi un ensemble de consommation moindre, que ce soit en électricité, que ce soit en chauffage, etc. Donc aussi un confort d'habitat plus important. Donc on joue aussi sur la planète, c'est-à-dire qu'on est un des premiers acteurs à limiter l'impact en gaz à effet de serre. Donc ça, pour les jeunes, c'est intéressant, c'est motivant, parce qu'on sait pourquoi on travaille et la cause sur laquelle on s'inscrit. Ensuite, il y a aussi, comme je l'ai dit, sur la rénovation, on peut avoir la rénovation plus patrimoniale. Donc là, le patrimoine vernaculaire ou autre, là, on va travailler, on va être sur des métiers, parfois d'art, oui, on a les métiers d'art, hein, mais dedans, on a aussi, on va dire, des métiers du patrimoine historique. Et puis après, on a aussi toutes les évolutions, l'impact, par exemple, sur la domotique, tout ce qui va rendre plus facile ou l'intelligence artificielle aussi qui arrive chez nous, donc il faudra s'en inquiéter un peu, mais bon, j'ai pas trop d'inquiétude néanmoins en la matière, puisque ça va rendre des services nouveaux et il y aura quand même l'installation et la mise en œuvre qui devra se faire avec ces métiers. Et dernière chose que je dirais, parce que je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais souvent le métier du bâtiment, on dit c'est des métiers manuels. Alors certes, oui, il faut une dextérité manuelle, mais il faut savoir réfléchir et savoir aussi s'adapter. Une capacité d'adaptation énorme, parce qu'à chaque fois, c'est un chantier nouveau, c'est des difficultés nouvelles, c'est des variantes qui sont proposées soit par l'entreprise, soit des solutions aussi par les architectes, hein, la maîtrise d'œuvre, mais aussi parfois des attentes du client, on appelle ça le maître d'ouvrage. Et c'est un ensemble, et à chaque fois, c'est une opération unique. Et c'est ça aussi qui est motivant et intéressant dans nos métiers.
Les métiers du bâtiment qui évoluent. On avait parlé il y a quelques années des mentalités aussi qui évoluaient, des jeunes, notamment post-Covid, avec des jeunes qui souhaitent avoir des bonnes conditions de travail, c'est-à-dire peut-être rentrer plus tôt le soir, travailler un peu moins. Ça continue, cette évolution de mentalité chez les jeunes apprentis. Je ne sais pas, je parle à vous tous, vous qui avez des apprentis, vous qui avez ces jeunes et toi qui es dans ce secteur-là.
Bien évidemment, l'employeur... le manager, puisqu'on appelle même maintenant plus manager qu'employeur, d'ailleurs le terme devient assez courant, doit s'adapter aux attentes. C'est-à-dire quelque part, on doit rendre le travail plus inséré dans les contraintes, qu'elles soient familiales, qu'elles soient de loisirs ou autres. Et par rapport à ça, il est clair que maintenant, on a des papas aussi, qui sont beaucoup plus investis dans la vie de famille, et certains vont chercher les enfants le soir ou les amènent le matin. Donc l'entreprise doit s'adapter en termes d'horaire, par exemple, et c'est le cas pour certains où on commence plus tôt le matin pour qu'ils soient de retour à 17h, puisque c'est eux qui ont la charge familiale de récupérer les jeunes enfants. Voilà, donc il y en a aussi, donc on a adapté aussi sur le repas du midi, par exemple, on fait quelques adaptations. Après, encore une fois, il faut rendre le travail est nécessaire, c'est l'essentiel. Mais malgré tout, on a des aménagements à faire pour que les salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, parce qu'effectivement les jeunes ont des attentes, mais il y a aussi, comme je le dis, le côté paternel ou maternel, puisqu'on a aussi de plus en plus de femmes qui intègrent nos métiers, ça c'est intéressant, parce que là on a quand même des gens hyper motivés, et qui vont rechercher aussi ce métier, mais en même temps avec certains avantages. Par exemple, on travaille rarement le week-end, contrairement à d'autres métiers aussi qui peuvent être... contraignant. Voilà, je parle pour ma paroisse, hein, vous m'excuserez, mais bon, pour d'autres, ça peut être justement une recherche d'avoir cette disponibilité.
Vous voyez, au niveau des apprentis, cette demande de faire un métier qui nous plaît, mais également de pouvoir avoir sa vie à côté, parce qu'on sait que, par exemple, vous, coiffeur, c'est des plages horaires assez larges de travail. Ouais.
Alors, au niveau des apprentis, je pense pas... Enfin, j'ai pas encore eu cette rencontre-là d'avoir des exigences au niveau des horaires. On le voit un peu plus sur le tard, quand on a des contraintes de ce qui n'était pas au début. Donc, on s'aperçoit que, notamment, il y a beaucoup de centres de coiffure, un peu plus dans les grandes villes que nous en campagne, qui ferment les samedis, par exemple, pour promouvoir le fait de la vie de famille, comme tout le monde. C'est des arguments pour pouvoir embaucher, pour trouver. Nous, à cette jeunesse-là, pour le moment, on n'a pas été encore confrontés. Espérons que ça reste comme ça.
On travaille le samedi ou on arrive à se dire non, ce week-end, je reste chez moi?
On travaille le samedi.
Et oui, très samedi. Ouais.
Parce que le samedi, c'est le seul jour de la semaine où je peux arriver à voir tous les clients, et où je dérange pas et où on n'empiète pas sur les heures de chacun.
Mmh. Et oui.
C'est, il faut. Mmh. C'est une nécessité si on veut avancer.
Il va y avoir une réforme du lycée professionnel à la rentrée prochaine. On a vu que la carte des formations était en partie revue avec des filières fermées, notamment dans le tertiaire, hein, pour mieux répondre aux besoins économiques du pays. Ça a une incidence, vous, au niveau du campus, sur votre offre de formation? Les sections évoluent, vous, ou pas vraiment?
Alors, la volonté, c'est vraiment de coller au maximum à ce qu'il peut y avoir sur le terrain, et donc en réponse à ce que les artisans retrouvent de façon économique tous les jours. C'est-à-dire qu'il faut essayer de s'adapter. C'est pour ça qu'on a mis en place, en dehors des diplômes classiques CAP, brevets professionnels dont on parlait tout à l'heure, des titres professionnels qui sont donc des titres qui soit sur certains diplômes vont coller plus aux besoins économiques des entreprises. Donc on est obligé de s'adapter. On parlait tout à l'heure d'évolution dans les métiers. Effectivement, il y a des évolutions aussi technologiques qui font qu'on doit remettre en cause un référentiel de diplôme qui ne serait pas adapté en fonction de cette évolution économique, et donc peut-être toucher d'autres diplômes qui, eux, seraient plus à même de le faire. On a notamment mis en place, pour donner un exemple, un titre professionnel un titre à finalité professionnelle mécanicien automobile qui intègre dedans de l'électrique, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui on est sur ces métiers-là avec de l'électrique ou de l'hybride. Donc on doit s'adapter en permanence. Et pour rebondir sur ce que disait Noé aussi par rapport à l'évolution des jeunes, oui, c'est sûr, on rencontre aujourd'hui l'évolution des besoins des jeunes, des envies des jeunes, des passions des jeunes. Et donc il y a aussi un travail à faire au niveau des entreprises d'adaptation pour coller à la réalité, hein. Évidemment, on ne va pas non plus obliger quelqu'un à travailler d'une certaine façon si ses aspirations en sont une autre. Donc on est dans l'hôtellerie-restauration notamment, il y a des évolutions qui commencent à se mettre en place pour coller plus aux personnes qui rentrent sur le marché du travail. Ça, c'est une évidence.
On manque de main-d'œuvre en Lozère dans le bâtiment, Noé, ou pas?
Alors, bon, tout le monde a compris qu'il y avait une crise qui se dessinait au niveau national. On pense que le repli sera de 5,5, hein, ça fait globalement, c'est quand même très impactant au point de vue du nombre de salariés. Maintenant, il faut minorer, je pense, les choses, surtout pour 2024, hein, pour cette année, dans les zones rurales. Pourquoi ? Parce qu'on a un parterre, encore une fois, et on parle d'artisanat, justement. En Lozère, le bâtiment, c'est quoi ? Le bâtiment, je prends le bâtiment, c'est 95% d'artisans, en tant qu'en... alors seul ou en tant qu'employeur. Donc c'est énorme. Et par rapport à ça, ils ont une immense, je dirais, force par rapport à d'autres secteurs, par exemple de la promotion immobilière qui va souffrir de la construction de maisons individuelles aussi. Bon, ça c'est pour des raisons, on va dire, d'aide et tout ce qui entoure l'accès au crédit et autres. Je ne vais pas revenir dessus, ce n'est pas le sujet. Mmh. Mais en ce qui concerne l'artisanat local, ce sont des gens qui sont polyvalents. Par exemple, la maçon ici est capable de faire du plancher, capable de faire de la limouniserie, excusez-moi, donc au niveau de la, on va dire des murs en pierre, faire aussi des murs en aglo, en briques. Donc, il aura une possibilité et une palette d'intervention qui lui permettra d'apporter une réponse. Ils sont souvent même, d'ailleurs, ils ont deux ou trois métiers. Ce qui fait que ça leur permet de rebondir et j'ai pas d'inquiétude majeure en la matière. Bon, si ce n'est pour quelques-uns, mais globalement, on continuera à embaucher parce que, évidemment, on a aussi des gens qui partent à la retraite et il y a un renouvellement naturel qui doit se faire en ce qui concerne l'employabilité potentielle.
C'est quoi le salaire d'un apprenti en CFA ?
Alors ça va dépendre de son âge et ça va dépendre de son année de formation. Donc c'est basé sur le SMIC et ensuite c'est un pourcentage du SMIC. Il y a des conventions collectives où il y a des différences aussi au niveau du salaire. Donc là il y a une palette de salaires qui varie de façon importante. Quoi.
D'accord. Laurent, c'est un choix voulu ou c'est un choix par défaut l'apprentissage pour vous ?
C'est un choix voulu. Et ça a été un choix complètement naturel, puisqu'après, effectivement, je savais ce que je voulais faire. Je voulais faire de la coiffure. Donc l'apprentissage, ça a été la voie la plus évidente que de continuer dans de l'école où on reste quand même énormément dans du théorique. Donc effectivement, le but était de travailler tout de suite en alternance.
Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésiterait à aller vers une filière d'apprentissage ?
Bonne question. Je pense que s'il y a un métier qui nous plaît, on ne se pose pas la question. Moi, je pense que c'est ça. Sur les derniers temps, quand j'ai eu des jeunes qui ont poussé la porte du salon pour des stages ou pour des apprentissages, j'ai eu une jeune fille qui m'a dit « Pourquoi pas la coiffure ?» Et l'apprenti que j'ai actuellement, il a dit « Je rêve d'être coiffeur depuis tout petit. » Bon, alors du coup, on a vite fait le choix, malgré et le statut de chacun, on sait vers qui on va se tourner, même si les apprentissages vont être plus durs que d'autres. Je pense qu'il y a la question de l'envie, et du coup, si on a envie de faire quelque chose, on ne se pose pas la question de quel chemin on va prendre.
Il faut, je prends la parole, il ne faut pas hésiter, il faut aller voir les entreprises, les entrepreneurs, et quitte à leur demander de faire une semaine avec eux de découverte en entreprise, s'il faut, on est prêt à les accueillir. Pour qu'ils découvrent de A à Z, si on peut les aiguiller, voilà.
Ouais, je pense que c'est très important ce que vous dites. On a aujourd'hui des moyens de pouvoir donner la possibilité aux jeunes d'essayer. d'essayer à travers des semaines d'insertion. Il y a différents dispositifs qui existent, donc c'est pas le souci, mais effectivement il faut aller voir, il faut se rendre compte de la réalité du terrain, peut-être changer d'entreprise aussi, parce qu'il n'y a pas deux entreprises qui travaillent de la même façon, mais c'est le meilleur moyen de savoir si réellement c'est ce métier-là qui nous intéresse et pour lequel on est fait, quoi.
Parce que ce qu'on appelait voie de garage avant, c'est révolu maintenant, les mentalités ont changé.
Oui, ça a beaucoup changé quand même, on a fortement progressé depuis quelques années là-dessus, et donc on a aujourd'hui, heureusement, des jeunes qui viennent dans un métier parce que c'est le métier qui leur plaît, et pas parce que on leur a empêché de faire ce métier pour poursuivre leurs études, parce qu'il fallait avoir le bac, aller à la fac, etc. Nous, on a aussi des personnes qui reviennent d'années de fac, hein, parce que effectivement, ils ont fait une licence, ils ont fait un master, et puis ils s'aperçoivent que la voie professionnelle, c'est pas forcément celle-là qu'ils avaient souhaité, et donc ils reviennent vers les métiers manuels, parce qu'ils étaient passionnés par la pierre, par le fer, par la boulangerie, etc.
Vous avez proposé des animations cet après-midi, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver ?
Alors moi, je ne vais pas proposer grand-chose, je vais laisser les professionnels,
nos professionnels
proposer, oui. Parce qu'on est sur le geste, donc je pense que là, ils vont travailler sur le geste. Moi, on m'a juste demandé d'amener un petit peu des accessoires, donc on a amené pour les coiffeurs des têtes malléables, où nos apprentis ont travaillé hier sur des chignons, donc on a des têtes malléables avec du travail sur les chignons. Et bon, en électricité, malheureusement, on n'a pas pu amener... On a une grosse maquette qu'on amène sur les salons en général, mais elle était vraiment trop lumineuse. Donc on a amené, par rapport au métier du bois, puisqu'on a vu que dans les métiers du bâtiment, il y a beaucoup de choses. On a amené un escalier, aussi une maquette d'escalier qui a été faite par les apprentis, et une maquette de charpente. Voilà.
Du coup, vous deux, vous, Laurent, vous avez proposé quoi ?
Je suis venu aussi avec mes petites têtes à coiffer, donc ce qui permettra de voir des jeunes ou des gens qui vont venir cet après-midi veulent mettre la main à la pâte, justement, s'essayer à des montages de bigoudis, où on pourra montrer des gestuels. S'il y a des cheveux à couper, ce sera aussi l'occasion peut-être de le montrer aussi.
D'accord. Ça existe encore, le bigoudi ?
Et ça existe encore. C'est pas encore révolu.
C'est pas révolu.
Moi, je suis venu pareil avec 2-3 bricoles pour montrer ce que c'était l'électricité avant et ce que c'est devenu maintenant, notamment avec les protections qu'on a tous plus ou moins à la maison, j'espère.
Sinon, Laurent, j'ai une stagiaire de 3e, peut-être qu'elle veut se faire, elle peut faire modèle pour les cheveux. Manon, non, on
je
coupe les cheveux ou pas ?
Je vais réfléchir à cette
bigoudie, alors. C'est ça. Allez, pour terminer, parce que ça fait déjà une heure d'émission, un mot sur le shooting photo, là, vous avez participé. Comment ça s'est passé ? Expliquez-nous un peu.
On a eu effectivement, pour ma part, c'était 2 photographes qui sont venus au salon. Et alors, je ne m'attendais pas à ça. C'est rigolo parce que je leur avais laissé 10 minutes en me disant ils vont venir, ils vont sortir le téléphone de la poche et ils vont me prendre comme ça. Et quand je les ai vus arriver avec les parapluies de lumière et tout le barda qu'il y avait, je me suis dit oula, ça va être plus long que prévu. Donc ils sont revenus effectivement pour 2 ou 3 heures de prise photo. C'était assez intéressant de voir réfléchir d'ailleurs aux postures et aux gestuels que l'on fait sans y réfléchir au quotidien.
C'est ça.
Donc on s'aperçoit qu'il y a plein de choses que l'on fait sans y réfléchir.
D'accord.
Pour moi, ça a été un peu pareil, sauf que les photographes sont venus sur le chantier. Et là, ça a été un peu plus difficile pour eux pour mettre tout en place pour avoir des bonnes prises de vue.
Voilà, et vous, on a choisi du côté le côté barbier pour la photographie.
Exactement, très en vogue en ce moment.
Voilà. C'est ça. Mais merci à tous. Voilà, on vous invite cet après-midi à la maison de la région. Hein, ça recommence à 14h30 et l'inauguration de l'exposition, c'est ce soir 18h. Voilà, donc si vous entendez cette émission en rediffusion le lundi, c'est passé, c'est trop tard pour vous. Et si vous l'entendez en direct, vous n'hésitez pas à venir. Merci à vous quatre. Merci à la maison de la région de nous avoir accueillis pour cette émission. Et on se retrouve bientôt sur les ondes de 48FM.